philosophie politique, cours du Père Philippe, Saint-Joseph, le 22 novembre 84.
Sans vouloir entrer trop dans la République de Platon, je crois que c'est quand même nécessaire d'essayer de saisir ce qu'il y a de si particulier dans cette pensée. Alors, je vous disais la dernière fois, je reprends pour que vous voyez bien, toute la recherche de Platon, c'est le point de vue de la justice. Et au fond, la justice va être, de fait, l'intermédiaire entre les activités humaines, comme activités humaines, et la contemplation du bien. On a très nettement, dans la politique de Platon, ce point de vue. Le philosophe contemple le bien. Le bien en soi. Et en contemplant le bien en soi, il découvre bien ce qu'est la justice au niveau propre de l'État. Le philosophe est législateur, il exprimera par les lois ce qu'est la justice. Et le peuple vivra de cette justice dans la mesure où il se conformera à cette justice. Et par la justice, il acquérera les vertus, les autres vertus, toutes les vertus. Et toutes les vertus sont comme commandées par la justice. Donc la place de la justice est extrêmement intéressante et importante. Et vous voyez là, il y a une parenté avec Parménide. C'est que pour Parménide, la dikée, écrit avec une majuscule, hein, parce que c'est une. C'est la dikée, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Hein. Alors, la dikée, les portes de la dikée, séparent les mortels, comme dit Parménide, les mortels à double tête. Et vous comprenez pourquoi il dit les mortels à double tête? C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, au point de vue politique, girouette. Hein. Vous savez bien, on a écrit un livre girouette après la guerre pour montrer ce qu'avait été Pétini, ce qu'avait été Gaulli, ce qu'avait été ainsi de suite. Et alors après un gouvernement, on pourrait faire Giscard, Mitran, Giscard, et ainsi de suite. Alors ça, c'est le portail à double tête. C'est qu'il passe d'une opinion à l'autre selon le vent. Alors ça, c'est le domaine des mortels. Il n'y a pas de vérité. On est dans l'ordre de l'opinion. Pour atteindre la vérité, il faut sortir, il faut dépasser les portes de la dikée. C'est pas commode. C'est la justice qui vient de Dieu. Il faut découvrir l'être. Et l'être se découvre grâce à la déesse. On ne dit pas qu'elle déesse, c'est la déesse qui vous révèle. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore la révélation de l'être, c'est parce que vous n'avez pas encore dépassé les portes de la dikée. Les portes de la dikée, c'est les opinions, c'est les ténèbres. Ici, on est dans la lumière. Évidemment, c'est un mythe merveilleux. Je vous ai dit, il faut lire le poème de Parménide. Ça vaut la peine, ça fait partie des grands classiques au plan philosophique. Il hein. Faut lire Parménide parce que c'est admirable, c'est très très beau. On peut donner toutes les interprétations qu'on veut, parce que c'est justement quelque chose de merveilleux. Alors vous avez l'interprétation moderne de Parménide, c'est une des manières d'aborder Heidegger, je crois. C'est peut-être la meilleure manière d'aborder Heidegger, c'est de voir comment il commande Parménide. Ce n'est pas du tout Parménide, c'est Heidegger. Et à ce point de vue-là, c'est très intéressant. Alors, là, on est en face de la vérité. Il y a deux voies. La voie de la vérité et la voie du maître. Des étangs, pour dire de par la vérité, des étangs. C'est les opinions. Qui impliquent le maître. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve quelque chose de semblable. Il y a une dépendance hein, de Parménide à Platon. Il y a une dépendance, il y a quelque chose qui est très curieux. On trouve quelque chose de semblable dans Platon. Le philosophe contemple bien soi, et grâce à cela, il comprend ce que c'est que la justice en soi, les lois, il est capable de légiférer, et il légifère par rapport au mortel. Le mortel. Tous ceux qui ne sont pas capables d'être philosophes, tous ceux qui n'ont pas dépassé la dictée, et ceux qui sont soumis à la dictée. Le monde sublunaire et le monde du soleil. Platon fait la lumière. Le bien en soi, c'est le soleil. Le bien en soi et le soleil. Le soleil est au monde visible ce que le bien en soi est au monde des intelligibles. Et donc tous les intelligibles sont commandés par le bien en soi. C'est le soleil. Mais bien le monde sublunaire, c'est très très net. Dans l'imagination, on voit très très bien cette division, cette séparation qui existe entre les deux. Alors, chez Parménide, c'est dit sous un mode allégorique, pas allégorique, symbolique et religieux. Et puis, chez Platon, c'est encore un mode mythique, mais le souci de découvrir le logos. Donc c'est très très important pour Platon la République. C'est son premier grand dialogue synthétique qui donne sa vision et où il exprime certains secrets de son cœur. Ça c'est sûr. Et les secrets de son cœur, c'est que le philosophe doit être roi. Il ne doit pas se contenter d'un manteau ou d'un habit. Il doit être roi. Il ne doit pas se contenter d'une chair et d'avoir, mais il doit être roi, parce qu'il est le seul à contempler le bien en soi. Bon. Alors, ce dialogue, vous voyez, il est double, hein, vous comprenez. C'est que, pour comprendre vraiment ce que c'est que la justice, il faudra regarder l'état. Parce que seul dans l'état, la justice est écrite en grandes lettres. Tandis que chez les individus en petites lettres. C'est pour ça que le dialogue de la République qui exprime ce que c'est que l'État, et le dialogue de la justice. Les deux choses sont parallèles. L'État, c'est là où la justice est parfaite. Tant que l'État n'exprime pas la justice parfaite, c'est pas l'État. Et c'est le philosophe qui doit le penser. Le philosophe. C'est un beau rêve. Alors, on commence hein, chez un vieillard, Céphale, je vous l'ai dit. Alors, notez bien ce début, toujours intéressant, l'opinion honnête, l'opinion des sages, des anciens, sur le point de vue de la justice. C'est normal qu'on demande aux sages ce que c'est que la justice. Mais Céphale ne va pas très loin. C'est un sage. Il dit que ce n'est pas la vieillesse qui est un regret, parce que la vieillesse nous libère des passions, mais la vieillesse est un regret en fonction du caractère des vieillards. Alors le vieillard où a suffisamment de réalisme pour comprendre que sa vieillesse le met au-delà des passions, alors à ce moment-là, il y a une paix. Tandis que si le vieillard regrette les passions, il est dans un état de regret, de spiritualité, du vieillard. C'est intéressant à voir. Et on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la justice ? Qu'est-ce que c'est que la justice ? Dire la vérité, rendre à chacun ce qu'on en a reçu, ce qui lui est dû, rendre à chacun ce qu'on en a reçu. Donc la vérité, c'est dire la vérité, la justice, je veux dire, c'est dire la vérité et rendre à chacun ce qu'on en a reçu. Alors Socrate souligne tout de suite, ça ne suffit pas, parce que cela peut être vrai aussi de l'injustice. Vous rendez à chacun ce que vous avez reçu. Alors après, on donne l'opinion des poètes, je ne reviens pas, puis la grande opinion de Trasimaque. Trasimaque de Chalcédoine, c'est un sophiste, le grand sophiste, qui montre que la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Car chaque gouvernement établit des lois dans son intérêt. Les lois faites, il déclare juste ce qui est conforme à ces lois. C'est admirablement dit, c'est exactement ça. Quand sont les sophistes qui sont au gouvernement, c'est exactement ça. L'intérêt du plus fort. C'est très très bien dit, et c'est vrai, ça existe, il y a cette position-là. L'intérêt du plus fort, car chaque gouvernement établit des lois dans son intérêt. Les lois faites, il déclare juste ce qui est conforme à ces lois. De plus, aucun artiste ne se trompe. Le chef d'État comme tel ne se trompe pas. L'infaillibilité du chef d'État. Il érige en loi ce qui est le meilleur pour lui. La justice consiste donc à faire ce qui est utile au plus fort. Et le plus fort n'a en vue que son intérêt. Donc, vous voyez, c'est montrer la justice du côté uniquement utilitaire. Alors, c'est intéressant pour nous faire comprendre un tout petit peu toute l'attitude des sophistes par rapport à la justice. C'est ça que Socrate veut faire comprendre. Il veut faire comprendre que les sophistes ont une conception qui est tout à fait fausse de la justice. Alors, je vous avais souligné ce petit passage, qui est très très joli, n'est-ce pas ? Pour nous en rendre compte, naïf Socrate, regarde partout l'homme juste à le dessous, vis-à-vis de l'injuste. On n'a qu'à regarder autour de soi, c'est toujours l'injuste qui domine. Le juste ne domine jamais. L'injuste se vaut à elle-même, donc elle se vaut à elle-même, avantage et profit. Autrement dit, l'injustice est tout orientée vers l'efficacité. Et si l'injustice est tout orientée vers l'efficacité, c'est elle qui l'emporte tout le temps. Alors Socrate refuse, parce que Socrate ne veut pas accepter ce genre de définition. Je ne crois pas que l'injustice soit plus profitable que la justice. Car le gouvernement ne gouverne que pour le bien des sujets et du plus faible. Ce que n'est pas toujours, oui, c'est le naïf Socrate. On voit déjà apparaître le naïf Socrate, c'est-à-dire l'idéiste de Platon. C'est-à-dire le gouvernement ne gouverne que pour le bien des sujets, que pour le bien du plus faible. Ceci est net, les gens de bien, dit Socrate, les gens de bien ne veulent pas gouverner. Il faut les contraindre par une punition. Parce que les gens de bien ne veulent pas gouverner. Et alors, quelle est la punition ? Être gouverné par un plus méchant que soi. Alors, pour éviter d'être gouverné par un plus méchant que soi, on se présente aux élections. C'est merveilleux comme propagande. Je ne veux pas être gouverné par un plus méchant que moi, et donc je me présente. Et alors, il y a la liste des plus méchants que soi, n'est-ce pas ? Et on ne veut pas être gouverné par un plus méchant que soi. Donc, on voit très bien que les gens de bien ne veulent pas gouverner, ils sont contraints de gouverner par une punition. C'est par crainte de cette punition que les hommes honnêtes se chargent de gouverner. C'est très très joli comme manière de tourner vers soi. Alors ensuite, Trasimaque revient encore, il continue d'affirmer la parfaite injustice, c'est d'être utile. L'injustice est utile, elle est avec la vertu. La justice n'est pas utile, elle est belle, mais elle n'est pas, elle est avec le vice. On voit très bien la transformation complète. Au fond, c'est l'injustice qui est efficace, et donc c'est au nom de l'efficacité que je vais traiter que, la justi- que, la, que l'injustice, elle est avec la vertu. Socrate refuse et dit l'injustice, elle est ignorance. La justice est source de concorde et d'amitié. Ceci au niveau de l'État et de l'individu. Mais Socrate souligne, ceci ne nous dit pas ce que c'est que la justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons bien que la recherche de Socrate, c'est le TSI. Pour bien vous montrer la parenté avec Aristote, hein, Platon cherche le TSI, c'est pas Aristote qui a inventé ça. Le TSI vient de Platon. La grande interrogation, qu'est-ce que c'est? Et avant Platon, ça vient de Socrate. C'est Socrate qui a commencé d'interroger. L'interrogation est rattachée à Socrate. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que le TSI de la justice? Et pour essayer de traiter ce que c'est que la justice, on va montrer ce que je vous avais commencé la dernière fois à vous montrer. On va essayer de donner ce grand point de vue très important, parce que c'est là où on saisit bien la méthode première de Platon et de Socrate. La recherche que nous entreprenons, donc 368, c'est la recherche que nous entreprenons est très épineuse et demande, à mon avis, une vue pénétrante. Puisque cette pénétration nous fait défaut, voici, dis-je, comment je crois qu'il faut mener notre enquête. Je le relis parce que je crois que c'est très important. C'est au fond là où on saisit vraiment la méthode propre de Platon. Si l'on donnait à lire de loin à des gens qui ont la vue basse, des lettres écrites en petits caractères, et que l'un d'eux s'avisa que les mêmes lettres se trouve écrite ailleurs en caractère plus gros, sur un tableau plus grand. Ce leur serait, je présume, une belle chance de commencer par lire les grosses lettres et d'examiner ensuite les petites pour voir si ce sont les mêmes. On passe de l'un à l'autre pour voir si c'est les mêmes. C'est très bien, répondit Adimante. Je vais te le dire, répliquai-je. Si nous admettons une justice pour l'individu, nous en admettons une aussi pour l'État tout entier. Jusque-là, ils avaient discuté sur les petites lettres. Vous voyez l'astuce. On a discuté sur les petites lettres, on a vu toutes les opinions, mais tous les gens se disputent là. On est au niveau des petites lettres. Parce qu'on regarde les individus. On regarde l'homme juste, l'homme injuste. On regarde l'homme... Et alors à ce moment-là, vous pouvez donner n'importe quelle définition. Vous n'êtes pas en face de la justice en soi. Vous êtes en face de tout ce marécage des hommes qui comportent en eux des quantités de choses. Donc la justice au niveau des individus, vous n'y comprendrez rien du tout. Vous pourrez toujours soutenir telle ou telle thèse. Et c'est pour ça qu'il a montré qu'on pouvait soutenir telle ou telle thèse. Alors élevons-nous devant ces contraires. Vous voyez, procéder. Il y a les contraires. Élevons-nous devant les contraires. Voyez comment la dialectique hegélienne peut s'enraciner dans Platon. Les contraires. On fait la synthèse. C'est pas comme ça que fait Platon, hein, mais on voit très bien. Les contraires nous obligent d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a avant toutes ces opinions diverses sur la justice pour nous obliger d'aller plus loin. Or, l'État est plus grand que l'individu. On est tous d'accord. Pour la grandeur, l'État est plus grand que l'individu. C'est sûr, il est plus grand. Par conséquent, il pourrait bien y avoir une justice. Il pourrait bien y avoir, isos, hein, il pourrait bien y avoir une justice plus grande, pléio, dans le cadre plus grand, et par là, plus facile à déchiffrer. Si donc vous y consentez, si vous êtes d'accord, il faut être d'accord là-dessus, hein, c'est une méthode, on va essayer, il y a tout un aspect rhétorique qui montre bien, qui veut persuader. Si donc vous y consentez, nous examinerons d'abord quelle est la nature de la justice dans les États, Ensuite, nous l'étudierons dans l'individu, en tâchant de retrouver la ressemblance de la grande dans les traits de la petite. C'est à mon avis fort bien dit. Il fallait le trouver. Toute l'astuce, c'était de trouver que l'État est plus grand que l'individu, donc c'est écrit en plus grand. La justice est écrite en plus grand. Parce que par définition, vous voyez, hein, par définition, l'État doit être bon. Mais comme l'État que nous voyons n'est pas bon, ben, il faut fabriquer un État bon. Il faut donc un grand mouvement pour essayer de découvrir quel sera l'État parfait. Vous voyez, comment la recherche de la justice en soi mène à la République, mène à la philosophie politique. La philosophie politique donne la clé de la justice. Et la justice ne peut être vue que dans une philosophie politique, mais dans une philosophie politique qui provient d'un philosophe. C'est là, à mon avis, fort bien dit, répondis-je. Eh bien, repris-je, si nous considérons par le logos la formation d'un État, ne verrions-nous pas aussi la justice s'y former, ainsi que l'injustice? Il se pourrait, dit-il. Cela fait, ne pourrions-nous pas espérer découvrir plus facilement ce que nous cherchons? Alors, à partir de là, nous commençons à faire quelque chose qui est très important, essayer de comprendre la formation de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? Alors, voyez tout de suite, au point de vue manière de connaître, quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'État ?», on va regarder la génésis, c'est-à-dire la génération de l'État. Alors, ça, c'est aussi un procédé typiquement platonicien. Et c'est très intéressant à voir. Donc, vous avez là deux méthodes successives. C'est pas du tout uniforme, hein, Platon. Il y a une première procédé qui nous oblige de voir la justice en soi et de rechercher la justice en soi. Pour cesser la justice à l'état pur, regardons l'état. Mais maintenant, il s'agit de voir la genèse de l'état. Comment se forme l'état? L'état est-il quelque chose de purement conventionnel? Thèse des sophistes. L'état est-il au contraire quelque chose de naturel? Thèse de Platon. Il s'oppose aux sophistes. On retrouvera quelque chose d'analogue chez Aristote. Chacun de nous se trouve dans une non-suffisance, une non-autonomie. L'autarché n'existe pas dans l'individu. L'individu n'a pas d'autonomie parfaite. Il ne peut pas se suffire à lui-même. C'est toute la question, se suffire à soi-même. Et par le fait même, il a besoin de beaucoup de choses. Il est en état de dépendance, le besoin. C'est la multiplicité des besoins qui associe dans le même lieu. Il s'associe pour s'entraider. Le premier besoin, alors c'est à partir des besoins qu'on va pouvoir comprendre ce qu'est la genèse de l'État. Le premier besoin, la première insuffisance de l'être humain, de l'individu, la première insuffisance, c'est la nourriture. Chaque fois que vous vous nourrissez, comprenez que vous êtes un être qui n'avait pas d'autonomie. Vous dépendez de celui qui vous a préparé la nourriture. C'est bien évident. Donc, vous êtes dépendant. La nourriture, puis le logement, puis le vêtement. Mais, alors la grosse question c'est celle-là, c'est très bien la nourriture, le logement, le vêtement, mais d'où ça vient? Il y a celui qui donne la nourriture et celui qui s'en sert. Il faudra donc des laboureurs, il faudra donc des maçons, il faudra donc des tisserands, il faudra donc des cordonniers. Or, la nature, alors voilà le grand principe qui va commander tout ça, vous voyez? Donc c'est par le point de vue de l'insuffisance qu'il faut combler. La nature, horreur du vide. La nature, horreur de ses manques. Or, les trois grands manques, par où il y aura trois grandes fêlures, c'est le point de vue de la nourriture, le point de vue du logement, le point de vue du vêtement. Très curieux. Alors, est-ce que ça correspond aux trois grandes fêlures que les psychologues notent aujourd'hui, c'est très, très intéressant, ça, parce que c'est parallèle, mais la différence n'est pas vue d'un point de vue psychologique. Mais c'est noter les trois grandes limites. Les trois grandes limites de l'individu qui sont insupportables, c'est ce point de vue-là. C'est la nourriture, c'est le point de vue du logement, c'est le point de vue du vêtement. Alors, comme de fait, on ne les a pas, il faut donc nécessairement qu'il y en ait d'autres. Or, la nature n'a pas précisément donné à chacun la même disposition. Elle a différencié chacun. Il est impossible à un seul homme d'exercer comme il faut plusieurs métiers. Alors ça, c'est très important pour Platon. C'est que la nature est déterminée de nous. Si la nature est déterminée de nous, eh bien, un homme ne peut faire d'une manière efficace qu'un seul métier. Vous voyez, la division du travail. La division du travail, elle est dans Platon. Elle est bourgeoise. N'oubliez pas ça. Et c'est vrai, elle est née dans Platon. Et c'est cette conception qu'il a pour arriver, vous comprenez, la division du travail. Il faut le philosophe en dernier lieu. Alors il faut le premier, tout à fait dans le bas, qui va être le laboureur. Le laboureur, c'est celui qui, de fait, correspond à la nécessité la plus fondamentale de la nourriture. C'est donc celui qui a la détermination la plus radicale, la plus fondamentale. Alors, la nature n'a pas précisément donné à chacun les mêmes dispositions. Elle a différencié chacun. Il est impossible à un seul homme d'exercer comme il faut plusieurs métiers. Elle a fait l'un pour une chose, l'autre pour une autre. Et alors, il va jusqu'à distinguer l'un pour une chose, l'usage, l'autre pour le facere, pour la fabrication. On fait plus et mieux et plus aisément lorsque chacun ne fait qu'une seule chose. Vous voyez, le critère d'efficacité, c'est aussi très important. Mieux et plus aisément, plus rapidement. Donc, parce qu'on réalise la chose dans un temps plus rapide. Par le fait même, si je regarde ce point de vue-là, il faut au moins quatre éléments. Laboureur, maçon, tisserand, cordonnier. C'est les quatre qu'il nomme. Il ne dit pas que la communauté c'est trois, il dit que la communauté c'est quatre. Aristote dit que la communauté commence à trois. Et vous voyez qu'ici, Platon dit que la communauté commence à quatre. Faire des outils et en user. Ce sont deux aspects différents. Voilà comment on se construit une police parfaite. Où est la justice? Est-ce qu'on peut découvrir alors sa naissance dans cette police parfaite? Alors on va tout de suite préciser que, étant donné qu'il y a ces différentes fonctions, il va y avoir deux espèces de cités qui vont tout de suite s'affronter. Il va y avoir une cité qui veut aller le plus loin possible dans la satisfaction des besoins. Ça, c'est l'état saint qui veut aller le plus loin possible dans la satisfaction des besoins. Et l'autre cité qui se contente du minimum. La cité qui se contente du minimum, c'est un état saint. L'autre, c'est un état de luxe. Société de consommation. C'est déjà présent. C'est dit textuellement. Et Platon montre bien qu'on ne peut pas l'éviter. Si je me place du côté de l'efficacité, on aboutira forcément à cela. Un besoin en crée un nouveau besoin. Un besoin demande qu'il y ait un autre. Et donc la division du travail ira de plus en plus loin. Et la division du travail va entraîner ce fait que un État demandera de s'agrandir. Si un État demande de s'agrandir, il doit s'agrandir sur le voisin. Ça ne peut pas être autrement. Si l'État demande de s'agrandir sur le voisin, nécessairement, il fait la guerre au voisin. S'il fait la guerre, il faut des gens qui fassent la guerre. Ce n'est pas le laboureur, ce n'est pas le maçon, ce n'est pas le tisserand. Il va donc apparaître quelque chose de nouveau. Et alors, c'est la classe des gardiens. C'est très important de voir que la classe des gardiens, c'est justement pour essayer de comprendre ce développement d'une cité qui tend à être de plus en plus autonome. C'est l'autonomie même de la cité. Vu du côté de l'efficacité, vu du côté des échanges nécessaires, qui va faire qu'il faut cette classe de gardiens. Il faut nécessairement la matière de la guerre pour justement chercher le mieux possible. Il faut donc voir les qualités nécessaires pour les gardiens de l'État. C'est ça qui va être très intéressant. Vous voyez, il n'a pas encore vu la naissance de la justice. Au fond, la naissance de la justice n'apparaît que lorsque l'État est dans un état de perfection. Seul l'État parfait va faire paraître la justice en soi. Et on comprend très bien. Parce que tant qu'on n'est pas encore arrivé à cette plénitude, on n'est pas en face de quelque chose de parfait. Et donc on pourrait encore rêver quelque chose de plus. L'état parfait, il est en quelque sorte vu par la classe des gardiens. Et je crois que ça, c'est très important à saisir. La place des gardiens chez Platon, c'est quelque chose d'inouï. C'est intéressant, hein. Les gardiens, c'est l'armée, l'armée de métier. C'est l'armée de métier. Parce que c'est une erreur complète de faire que tous les citoyens soient pour la guerre. C'est une erreur complète, c'est contraire à toute espèce de vision réelle. Une armée doit être une armée de métier, ça ne peut être que ça. Il faut des gens spécialisés qui soient uniquement faits pour ça. Ça c'est commandé par ça, et ça aboutit, vous voyez, à ce point de vue-là. Les gardiens, c'est quelque chose qui est pour lui quelque chose de très très important. Alors, quelles sont les qualités requises pour les gardiens ? Les qualités requises pour les gardiens, c'est d'avoir un bon irascible. Si vous avez un bon irascible, vous êtes capable d'être un gardien. Et en même temps, une très grande capacité de douceur. Et alors, Platon fait là le parallélisme avec les chiens de race. Les chiens de race sont en effet... Il y a un parallélisme, une analogie merveilleuse. Ça, il aime beaucoup ça. Il se sert beaucoup des animaux pour essayer de comprendre. C'est très, très curieux. C'est très intéressant à voir ça. Alors, il y a toute la question des chiens de race. Or, les chiens de race ont cette chose très extraordinaire, c'est qu'ils sont très méchants pour les étrangers et ils sont très doux pour ceux qui sont de la maison. Ah, voilà. Ce qui nous montre bien ce que c'est que les gardiens. Ils sont des bons chiens. Les chiens du Seigneur, hein, vous voyez bien. Alors, ce sont des bons chiens. Les gardiens, c'est ça. C'est quelque chose de particulier. Et alors, il y a quelque chose de très, très curieux. La première fois où ça apparaît, je vous dis, l'ordre génétique, si vous voulez saisir Platon, soyez toujours sensible à la génésis. Hein. Ça, c'est la grande méthode de Platon. Donc, à quel moment apparaît la justice ? Elle n'apparaît pas encore. L'irascible et la douceur apparaît avant. Et alors, ce qui est le mieux, les gardiens doivent avoir un instinct philosophique. Comme les chiens de race. Les chiens de race ont un instinct philosophique. C'est-à-dire, ils grognent. Voilà l'instinct philosophique. L'instinct philosophique, pour le futur guignol. Donc, c'est les gardiens. Ils grognent à la vue de l'ennemi. Ils discernent l'ami de l'ennemi. à le premier discernement philosophique. C'est très intéressant. Aristote reprendra ça pour parler de la cogitative. Plus exactement, saint Thomas, parce qu'Aristote n'en parle pas. Saint Thomas reprendra ça pour la cogitative. La cogitative nous fait discerner ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et alors, c'est curieux de voir là, c'est un passage qui est très, très, très joli, ce passage, de voir comment, de fait, les chiens de race discernent l'ennemi de l'ami. Bien, le vrai, l'instinct philosophique du gardien, c'est de discerner l'ami de l'ennemi. La qualité des gardiens, c'est donc l'instinct philosophique, et l'avidité d'apprendre, la curiosité. Voilà les quatre grandes qualités du gardien. L'irascible, donc l'irascible c'est la force. La douceur pour l'intérieur, il ne faut surtout pas que les gardiens se trompent. Il faut qu'ils soient très doux pour l'intérieur. L'instinct philosophique et l'avidité d'apprendre. Alors comment éduquer tels hommes? Cette question doit nous aider à découvrir la manière dont la justice prend naissance. Ça, c'est très curieux. Vous voyez, c'est là où, de fait, il voit l'agencement et l'apparition de la justice. Comment éduquer les hommes? Cette question, donc, l'éducation, la païdéia, l'éducation joue pour Platon et pour Aristote un rôle dominant. Pas de politique sans éducation. Et pour un gouvernement qui sait ce que c'est que le gouvernement, sa première intention, c'est toujours l'éducation. Alors cette question doit nous aider à découvrir la manière dont la justice prend naissance dans l'État. Socrate dévoile ce que doit être cette éducation. Alors on va regarder l'éducation pour découvrir ce que c'est que la justice. Vous voyez ? C'est complexe, hein, comme elle est cachée. Elle ne se montre pas tout de suite, la justice. Hein. Comme elle est cachée, comme elle doit se dévoiler progressivement. Alors, l'éducation des gardiens. Qu'est-ce que c'est que l'éducation des gardiens ? Mais l'éducation des gardiens, c'est la gymnastique pour le corps. C'est la musique pour éduquer l'âme. Ça, c'est aussi très grec. Gymnastique et musique, c'est absolument essentiel pour l'éducation. L'harmonie de l'âme, c'est toute la grande vision de l'âme. Et on comprend très bien comment, vous voyez, les musiques qui détraquent le point de vue de l'éducation. Toutes les musiques qui veulent supprimer une éducation qui soit une harmonie de l'âme. Et alors, l'harmonie de l'âme, enfin, l'éducation de l'âme, se fait d'abord par la musique et ensuite par le discours pour le nous. Donc, la dialectique est dans le prolongement de la musique. Vous voyez, 377b. Vous voyez ce petit passage. Merci. Ne sais-tu pas qu'en toute chose, la grande affaire est le commencement. Arché, c'est évident. La grande affaire, c'est le commencement. Ne sais-tu pas qu'en toute chose, la grande affaire est le commencement. Principalement pour tout être jeune et tendre. Vous voyez, noviciat, plaidoyer du noviciat, hein, c'est ça. Ne sais-tu pas qu'en toute chose, la grande affaire, la chose principale, c'est le commencement. Principalement pour tout être jeune et tendre. Parce que c'est à ce moment qu'on façonne et qu'on enfonce le mieux l'empreinte dont on veut marquer un individu. C'est tout à fait actuel, ça. C'est bien évident. C'est ça qui est la chose principale. C'est bien certain. En ce cas, laisserons-nous à la légère les enfants prêter l'oreille à n'importe quelle fable imaginée par le premier venu et recevoir dans leur esprit des opinions le plus souvent contraires à celles qu'ils devront avoir, selon nous, quand ils seront grands. Nous ne le permettrons pas du tout. Il faut donc commencer, semble-t-il, par veiller sur les faiseurs de fables. Et s'ils en font de bonnes, les adopter, de mauvaises, les rejeter. Nous engagerons ensuite les nourrices et les mères à compter aux enfants celles que nous aurons adoptées. Vous voyez, le petit catéchisme bien déterminé, hein. Faut ce catéchisme là tout à fait dès le début. Il y a des fables qui sont bonnes, il y a des poètes qui sont mauvais. Alors ça, c'est l'opposition farouche de Platon contre Homère. Hein. Faut pas l'oublier. C'est une opposition la plus farouche qui a existé. C'est très étonnant. Nous engagerons ensuite les nourrices et les mères à compter aux enfants celles que nous aurons adoptées et à leur façonner l'âme avec leurs fables beaucoup plus soigneusement que le corps avec leurs mains. Quant aux fables qu'elles racontent à présent, il faut en rejeter le plus grand nombre. Voilà, tout provient de ça. Si l'état est si lamentable, c'est à cause de la première éducation. On raconte aux enfants des tas de mythes qui sont complètement faux. Lesquels, demanda-t-il ? Nous jugerons, répondis-je, des petites par les grandes, car grandes et petites, il faut qu'elles soient faites sur le même modèle et produisent le même effet. N'est-ce pas ton avis ? Si, dit-il. Ce sont, répondis-je, celles des deux conteurs, Hésiode et Homère, et d'autres poètes, car ce sont eux qui ont composé ces fables mensongères qu'on a racontées et qu'on raconte encore aux hommes. Alors ça, c'est farouche de s'opposer à toute espèce d'éducation qui soit un mensonge. Donc, alors 379, je vous lis ce passage parce qu'il est quand même aussi très beau. Intéressant, vous voyez, je crois que ça montre bien l'attention, vous voyez, quand je dis Socrate idéaliste. Non, c'est un réalisme extraordinaire, ça. C'est le réalisme de voir l'empreinte première, alors. Vous voyez, les petites contradictions à l'intérieur du platonisme, hein. Parce qu'il n'y a rien de plus réaliste d'avoir ça. Si l'âme n'a que la réminiscence, ça n'a aucune espèce d'importance ce qu'on dit. On est entièrement déterminé. Pas du tout. Les premières déterminations, le premier conditionnement détermine pour la vie. Parce que la génésis détermine. Le devenir détermine. Il donne la forme. Alors là, il y a une contradiction avec la réminiscence. Moi, j'avoue que c'est contradictoire. C'est intéressant de saisir à la fois cet aspect très important qu'il voit, de voir l'aspect de l'éducation. C'est, l'éducation pour lui est capitale. Alors, 379a, là aussi il y a un passage qui est très beau. Je le répète à Dimante. Nous ne sommes poètes, ni toi ni moi. Il doit seulement dire qu'il est quand même un peu poète. Non, il est plus que poète, il est philosophe. Ni moi. En ce moment, nous... mais fondateur d'État. Ah, voilà. Nous ne sommes pas des poètes. On en use des poètes. Tandis que Platon se dit fondateur d'État. Donc, il est le grand fondateur d'État. 379. Ah, mais fondateur d'État. En cette qualité, il nous appartient de connaître les modèles suivant lesquels les poètes doivent composer leurs fables et leur défendre de s'en écarter. Mais ce n'est pas à nous d'en composer. Toujours, la nature est bonne, déterminée de nous. Donc si le philosophe est fait pour être philosophe, si le philosophe est fait pour déterminer la nature, eh bien il n'a pas à être poète. Qu'on laisse uniquement être philosophe. Voici l'idée que je m'en fais. Il faut toujours représenter Dieu tel qu'il est. C'est pour ça que je prends ce point. Oios, tune canaille, o theos, on, tel qu'il est. Il faut représenter Dieu tel qu'il est. Quel que soit le genre de poésie, épique, lyrique ou tragique, où on le met en scène, il le faut en effet. Or, Dieu n'est-il pas essentiellement bon? N'est-ce pas suivant cette idée qu'il en faut parler, sans doute? Mais rien de ce qui est bon n'est nuisible, n'est-ce pas? C'est mon avis. Or, ce qui n'est pas nuisible ne nuit pas, en aucune manière. Mais ce qui... Vous voyez le bon dialogue, hein? Très bien. Mais ce qui ne nuit pas, fait-il du mal? C'est ça l'intérêt. Fait-il du mal? Pas davantage. Et ce qui n'est fait aucun mal ne peut être non plus la cause d'un mal. Comment le pourrait-il? Mais quoi? Ce qui est bon n'est-il pas bienfaisant? Si. Il est donc cause de tout ce qui se fait de bien? Oui. À ce compte. Ce qui est bon n'est pas la cause de tout. Hein, voyez bien. Puisqu'il ne peut pas produire le mal, et que le mal existe, donc il n'est pas la cause de tout. Par conséquent, bon, à ce compte, ce qui est bon n'est pas la cause de tout. Il est la cause des biens, il n'est pas la cause des maux. C'est incontestable. Par conséquent, repris-je, Dieu, puisqu'il est bon, n'est pas non plus la cause de tout, comme on le dit communément. Il n'est cause que d'une petite partie des choses qui arrivent aux hommes. Il n'est pour rien dans la plus grande partie, car nos biens sont en fort petit nombre en comparaison de nos...